Enfin, vers la fin. On est à Rabbanan Amrela, Shem Rav Hanina Baridi, Rav Pinchas, Shem Rav Simon, Rav Chelkia, Shem Rav Simon Amar. Meod. Le mot Meod, il est écrit avec les lettres, les mêmes lettres que Adam. Voilà, donc ceci étant posé, alors on lit le verset. Vayar Elohim et kol asher asa veine tov meod. Avec cette hypothèse, enfin, cette remarque initiale, on devrait lire le verset. Vayar Elohim et kol asher asa veine tov Adam. Puisque Meod, c'est la même chose qu'Adam. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est une bonne chose? Tov Meod, bon, ça veut dire Tov Adam. Est-ce que ça peut bien vouloir dire Tov Adam? Avuna Rabash et Tsipporine. Amar, Ravuna, le maître de Tsipporine. Tsipporine, c'est un endroit. Amar, Adshemalachéacharet, Vedainin, Elohim, Elou. Pendant que les Malachéacharet discutent entre eux, ils s'opposent sur le fait, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut créer l'homme, est-ce qu'il ne faut pas le créer? Utaskim, Elohim, Elou, Brao, ils discutent entre eux. Brao, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Amar lahem, ma tem dainim, kvar naaso, Adam. Il a déjà été fait, l'homme. Alors, je vous rappelle qu'on était parti de ce texte qui disait que au moment de Naasé Adam, faisons l'homme. D'accord? Mais donc, Naasé, c'est faisons. Et Naasa, avec un kamas à la fin, hein, c'est ça a été fait, c'est fait. Donc, c'est un peu paradoxal parce que on a l'impression que dans l'AC, on entend on interroge les Malachim. Et maintenant, on dit, ben, en vérité, il faut lire Naasa, Adam. Ça veut dire, ils ont été invités à discuter. A priori, on leur demande leur avis, et puis pendant qu'ils discutent, Akadosh Baruch Hu, ils passent outre et ils créent l'homme. Et l'homme est déjà créé. Ils leur disent, ça sert à rien de. Vous pouvez arrêter de discuter. C'est fait. L'homme a déjà été créé. C'est trop tard, en fait, de sorte. Donc alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que l'homme, c'est Meod? C'est-à-dire, on a remplacé, on a dit que Elohim, quand il voit tout ce qui a été créé, on est à la fin de la création, Elohim regarde tout ce qui a été créé, Veine Tov Meod, et voit que c'est Tov Meod. Tov Meod, ça veut dire en vérité, tout est déjà bien pour que l'homme puisse advenir, en fait. Tov, Adam. Tov, maintenant, Adam. C'est-à-dire que l'homme arrive dans un monde qui est bon. Donc, d'une certaine façon, ce qu'on nous dit ici, c'est il y a des arguments pour le créer, des arguments pour, contre la création de l'homme, mais finalement, Elohim regarde la situation et il juge que le monde tel qu'il est créé est un monde qui est tout à fait adéquat pour que l'homme puisse arriver en quelque sorte. L'homme va trouver un monde qui est tov, qui est bon. Tov meod, qu'est-ce que c'est très bien, c'est, si Elohim a dit que c'est bien, alors c'est bien. C'est quoi le très bien? Il y a quelque chose, si vous voulez, qui est... On n'a pas besoin de dire très bien. Mais d'un autre côté, la Gaon de Vilna dit que Meod, quand ça figure dans la Torah, Meod, ça veut dire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, Tov Meod, c'est super, super bon. Et d'une certaine manière, c'est parfaitement bon. Pourquoi ? Parce que c'est adéquat pour l'homme. Comme c'est à l'homme que Hachem pense, si vous voulez, dans la création du monde. Puisque Hachem crée le monde pour être reconnu comme Melech, comme roi du monde. Les seuls qui peuvent le reconnaître comme roi du monde, ce sont les hommes. Et donc, à partir du moment où Akash Bokhu peut dire sur ce qui a été créé que c'est Tov, sa totalité, bon, alors ça veut dire que maintenant on y est. C'est parfaitement adéquat. Ça ressemble un peu, par exemple, à ce qu'on dit du nom divin Shakai, Shindaled Yud. Que Akash Bokhu, Shemar le Olamo, Dai. Comme si on se représente un monde en expansion, puis au bout d'un moment, Hachem dit stop, ça suffit, l'expansion est assez grande. Alors voilà, il y a suffisamment de diversité, de variété, d'éléments dans le monde pour créer toutes les situations dans lesquelles l'homme va pouvoir reconnaître que Hachem est le maître du monde. Toutes ces situations-là sont réalisable dans le monde tel qu'il est. C'est un peu la même chose ici. Le monde est Tov, et donc maintenant, c'est à l'homme d'agir. Voilà, on peut y placer l'homme. L'homme est placé dans ce monde qui est Tov. Voilà. On peut passer au sixième. Ravuna b'shem Rab Aibu Amar Bedaat Brao. Ce Ravuna dit au nom de Rab Aibu Bedaat. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme bedaat, c'est-à-dire avec daat, avec discernement et en tenant compte de tout. Le daat, c'est chokma, bina, daat, ça englobe tout. C'est quoi? C'est de nouveau la même idée, en fait. Enfin, c'est un peu la même idée que celle qu'on a vue juste à la fin. C'est-à-dire, « Shebara atzorkem zonotav ve'achakar brao » Akadosh Baruch Hu a créé tout ce dont l'homme aura besoin pour sa subsistance. Mezonotav. Et après seulement, il a créé l'homme. Azamru Malaché Acharet, Ifne Akadosh Baruchu, Ribon Aolam, Maître du monde, Ma Enosh Kitizkerenu, Uven Adam Kitifkedenu. Donc les anges de service disent devant Hachem, Ma Enosh, Enosh c'est un des noms de Adam. Qu'est-ce que l'homme pour que Tizkerenu, pour que tu t'en souviennes. Et le fils de l'homme, pour que tu lui donnes des ordres, des tâches. Et il ajoute, en fait, Hada Hakta Lehan Bavri. Mais vrai, cette tsara, cet homme-là, il va nous faire des ennuis. Qu'est-ce qu'on a besoin de ces ennuis-là? Pourquoi créer cet être qui va nous créer des ennuis, des tsarotes? C'est-à-dire que curieusement, les malachiens s'arrêtent. Ils ont un regard critique sur la création de l'homme. D'accord ? Ça veut dire... on ne voit pas très bien pourquoi on doit prendre en compte l'homme avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses, tous ses manques. Alors, Akadosh Baruch Hu leur a répondu. Amar Lehon, il leur a répondu, mais si on raisonne de cette manière-là, alors le Tzoné ve alafim kulam, le man ivreu, tipor shamaim, dgeayam, le man ivreu. Alors, le petit bétail, le gros bétail, en fait, pourquoi ça a été créé? Les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, pourquoi ont-ils été créés? Machal le Meller, on donne une parabole. Il s'agit d'un roi. Shayalo Migdal Malé Koltouv. Il avait une tour, un silo, plein de toutes les bonnes choses. Ve'en lo ochim. Mais il n'avait il y avait pas de gens qui pourraient venir profiter de cela. Personne ne Zmana Yesh la Melech. Chez Milo. Quelle jouissance, quel plaisir est-ce que cet homme va avoir d'avoir ainsi rempli ce migdal de toutes les bonnes choses. Amro le fanav ribono shel olam. Hashem Adonainu, ma adir shimcha bechol haaretz, avid ma danilach. Alors les anges ont dit, maître du monde, toujours, Hashem, notre Seigneur, ma adir, qu'il est splendide, ton nom, sur toute la terre. Avid ma dehanilach. Fais comme tu veux, ce qui te plaît. Voilà le numéro 6. Alors, de quoi on parle là? On a vu que au 5, à la fin du 5, on a vu que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme sans tenir compte finalement, où il a tranché entre les positions des anges de service et la tranchée qu'il fallait créer l'homme. C'est fait. Maintenant, on va faire avec ce qui est là. Alors, du coup, les anges disent que on a vu que ce Me'od, là, ce Tov Me'od, que Hachem avait créé dans le monde, tout ce dont l'homme va avoir besoin. Et donc, ce qui s'est fait, c'est qu'effectivement, Hachem a créé tout ce dont l'homme va avoir besoin, et il l'a créé tout cela avant de créer l'homme. L'homme arrive dans un monde qui est déjà Tov, un monde dans lequel tout ce dont il pourrait avoir besoin se trouve là. Donc on voit qu'il y a un souci, un date. Hachem n'a pas voulu que l'homme se trouve dans un monde où il y a des manques et qu'ensuite il va falloir combler ces manques. L'homme arrive dans une situation où tout est là. Tout ce dont il peut avoir besoin se trouve là. Alors, du coup, maintenant les anges se disent, ils disent, mais finalement, c'est quoi cet homme pour que tu t'en soucies? Il devient tellement important que tu as créé tout un monde pour lui et tu vas lui tifkedenu, ça veut dire tu vas lui donner des tâches, tu lui donnes un rôle à jouer à cet homme. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de... En quoi on a besoin de tout ça? On était tranquille. Les malachim, ils pensent que c'était très bien, cette situation. Qu'est-ce qu'on a besoin de ce trouble fait là qui va arriver dans le monde et qui va nous causer des ennuis? Pourquoi l'avoir créé? Alors, ce qu'Hachem leur répond, c'est un peu étrange. Il leur dit, mais tout ce que j'ai créé jusque-là, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Il n'était pas nécessaire de créer des troupeaux de petits, de gros bétail, des oiseaux, des poissons, etc. Pourquoi cela? Donc c'est très étrange parce que Hachem est en train. Ben peut-être que on posera la question après la parabole. La parabole, c'est quoi? La parabole, c'est que bon, le monde est plein. C'est le roi. Il a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas d'invité, il n'y a pas de convive. Personne ne va profiter de tout cela. Donc, il faut donner un sens à la création. Il faut que quelqu'un en profite. C'est ça l'argument que, disons en gros, avant de regarder plus en détail pourquoi on a besoin d'une parabole pour ça, comme toujours. Mais c'est ça en gros le sujet. Voilà, ben, il y a un monde là maintenant. Et bien, puisqu'il y a un monde, alors il faut créer l'homme. L'homme va être l'humanité va être les convives de ce monde, ceux qui vont profiter du monde qui a été créé. Il y a un monde et il faut qu'il serve à quelque chose. Sinon, le fait que le roi possède tout, que personne peut en, il n'y a personne pour en profiter. Les anges ne sont pas en situation de profiter du monde. Et donc, ils sont d'accord. L'argument, il est gagnant. Alors, ils disent, OK, c'est toi, notre Seigneur, tu fais comme tu penses. Tu es le maître du monde, tu es notre Seigneur. Ton nom est splendide dans le monde. Fais ce que tu veux. Alors, on pourrait d'abord se demander, qu'est-ce que ça veut dire, ton nom est splendide dans le monde, fais ce que tu veux. La splendeur du nom divin, c'est les hommes qui la... Ce sont les hommes qui la reconnaissent, non? D'après les malachim, ici, on voit bien qu'ils pensent que non, c'est pas... Fais ce que tu veux parce que tu es le maître. Mais Hashamaim Mesaprim Kvodkel, les cieux racontent la gloire d'Hachem, etc. Le monde raconte la gloire d'Hachem. Donc le nom d'Hachem est bien connu dans le monde. Ce nom, il est vraiment à dire Rolaharetz. Effectivement, tu fais ce que tu veux. Parce que ça, ça va grandir aussi ton nom. Mais ton nom est déjà grand avant la création de l'homme. Ce qu'ils disent, fais ce que tu veux, ça veut dire le monde est grand, ton nom est grand, pardon. Il est grand parce que la création proclame le nom d'Hachem. Il y a des choses, on n'a pas besoin effectivement des hommes pour proclamer la gloire d'Hachem. Ce que les hommes apportent de nouveau, c'est qu'il y a une possibilité de ne pas la proclamer, de transgresser. C'est ça la nouveauté. Ce qu'ils appellent la tzara. Qu'est-ce qu'on a besoin de cette tzara? Mais si Hachem veut être meler dans le monde, alors, on a besoin des hommes. Parce que meler, ça veut dire accepter. Les cieux proclament la gloire d'Hachem, ben, ils n'ont pas le choix. Donc, ça ne fait pas d'Hachem un meler. Il a fallu attendre Avraham Avinu pour reconnaître Hachem comme meler. Même les hommes, au départ, ils ne le reconnaissent pas comme meler, mais comme Moshel. Voilà, tu es tout puissant, on peut rien, voilà, on connaît, mais c'est pas qu'on t'accepte, on est écrasé par ta puissance. Arrive Abraham qui dit non, je le reconnais comme Meller, c'est la nouveauté. Pourquoi est-ce que, comme toujours, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on en passe par une parabole? Qu'est-ce que la parabole du Meller nous apporte de plus que ce qu'on savait déjà? Quand il dit, voilà, il y a le monde, il est Tov. D'ailleurs, il y a le Kim qui Tov. Tout le Tov est là. Est-ce qu'on a... Alors, voilà, il n'y a personne pour en profiter. On a l'habitude de dire que ça fait partie des qualités du chesed, du bien, si vous voulez, de s'épancher. Le bien par excellence, c'est un bien qui fait du bien. Donc, faire du bien, c'est avoir des gens auxquels on peut donner du bien. Alors, je repose la question. Qu'est-ce que la parabole ici nous apporte? Qu'est-ce qu'elle dit, cette parabole? On parle d'un roi qui a une tour ou une ville, je ne sais pas où, dans laquelle il a rassemblé tout le bien, colle tout, mais il n'y a personne. Il n'y a pas de orchim, il n'y a pas de convive, il n'y a pas d'invité. Alors le roi n'a aucune... Quel plaisir est-ce qu'il peut tirer de ce qu'il a? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Pourquoi avoir passé par la parabole? En général, quand on passe par la parabole, c'est parce qu'on veut nous dire quelque chose qu'on ne pourrait pas dire directement sur Hachem. Qu'est-ce qu'elle dit, cette parabole? De si extraordinaire, si vous voulez, de quelque chose qu'on ne pourrait pas dire d'Hachem directement.
Bah, elle nous dit que le roi va en tirer plaisir. On peut dire ça de...
Non, elle dit que le roi va tirer plaisir, vous voulez dire des convives, quand il y aura des convives.
Oui, c'est ça. Est-ce que Hachem a besoin de l'homme pour tirer plaisir.
Voilà, c'est ça. Ça veut dire, ici, on voit que le roi, de tout ce qu'il a, s'il peut pas, s'il voit pas que, s'il n'est pas dans la position de donner à des gens, ben, tout le bien qu'il a, il ne profite pas. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire ça directement d'Hachem? Parce que ça fait apparaître l'homme comme... une nécessité pour Hachem. Hachem a besoin de l'homme. Le roi ici, il a besoin de l'homme. Il a besoin de ses convives. Alors ça, on ne peut pas le dire directement d'Hachem. Parce qu'Hachem a par définition besoin de rien. Et les hommes ne lui donnent jamais rien. C'est pour ça qu'on a passé par la parabole. Eh bien, c'est-à-dire qu'il faut comprendre, sans pouvoir le dire, quelque part que le. Justement, par exemple, cette dimension de Meller, elle est très difficile à concevoir s'il n'y a pas de créature pour le reconnaître. Puisque par définition, le Meller, c'est quelqu'un qui est reconnu. Mais nous disons dans Adon Olam, on dit Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra. Il est le maître du monde. Asher Malach, il a régné avant la création de toute créature. En quoi il est Meller? Comment est-ce qu'on peut être Meller? Un Meller qui n'a pas de sujet, il n'est pas roi, il est. Et pourtant, on commence la tefila avec ce Adon Olam. On commence la tefila par dire qu'Hachem est Meller avant la création du monde. Donc, ça, c'est justement peut-être. Ça, c'est quelque chose de tout à fait... C'est-à-dire, la Mida de Malchut, c'est une Mida chez Hachem, en fait, qui fait partie de la... de la divinité quasiment, ou de l'expression de la divinité, pour parler jusque là. Mais justement, c'est un peu, c'est incompréhensible, si vous voulez, pour nous. Dans notre langage, quasiment, c'est pas possible. Dans notre langage, on est obligé d'utiliser un mélère de chair et de sang parce que ça reviendrait à dire qu'Hachem a besoin de l'homme. Que l'homme qui a été créé ici, il apparaît comme la condition pour que Hachem profite du monde qu'il a créé. Le roi qui a rempli la citadelle en question, la ville en question, le silo, je ne sais pas, c'est Migdal, c'est tour. Il n'a pas d'anaa s'il n'y a pas de convives. Donc il a fallu qu'on crée les convives. Donc l'homme, ce sont les convives qui vont permettre Hachem d'avoir un plaisir de ce monde, on peut parler comme ça. Les hommes vont faire plaisir à Hachem. C'est marqué aussi Nachat Ruach à Hachem. Faire du plaisir à Hachem. Les korbanot, toutes les situations, on fait plaisir à Hachem. Évidemment, il faut, avant d'oser dire une chose pareille, il faut commencer par dire « Hachem n'a besoin de rien et on ne peut rien lui donner ». Après, on peut utiliser les mots pour faire plaisir à Hachem. Mais c'est contradictoire. Ouais, et Akadosh Baruch Hu nous permet, quand on ne pense pas à la divinité elle-même, de penser que nous faisons quelque chose en réalité. Nous apportons une contribution.
Si vous permettez, vous nous avez néanmoins, c'est un petit peu le paradoxe, semble-t-il, ici, lorsqu'on entend le Midrash, vous avez enseigné que, en fait, ici, il faut plutôt voir un acte d'amour qui est là pour que l'homme puisse justement profiter de ce monde qui lui est presque apporté sur un plateau d'argent, mais c'est pour, on lui demande de faire des choses, mais c'est pour son bien, et que effectivement il y a un acte initial d'amour. Mais ici, je n'entendais pas qu'on aille jusqu'à dire que oui, dans la mesure où l'homme reconnaisse la malchoute de Hachem, eh bien, quelque part, on pourrait parler d'un plaisir ou d'une satisfaction de Hachem qui, là, verrait effectivement comme il est bon de donner, en fait, toute cette bonté ici, stocker ces bonnes choses qui sont dans la tour.
Vous avez parfaitement raison, mais c'est, je pense que c'est ce que j'ai essayé de dire. Mais comme on ne peut pas le dire directement, on a passé par la parabole.
Oui, mais c'est un petit peu quelque part. Alors si on pousse un peu la chose, alors on passe par la parabole, mais est-ce que ce n'est pas un peu schizophrénique? Parce que normalement, on ne devrait pas avoir besoin de cette parabole. Et cette parabole nous met dans un...
C'est obligé, Ilan, de passer par la parabole, parce qu'il y a des choses que Hachem, c'est... Il n'y a pas de mots pour dire certaines choses. On ne peut rien dire d'Hachem, parce que les mots sont faits pour les hommes. Les mots sont faits pour les créatures, et pas pour le créateur. Quand les mots n'ont pas été inventés pour le créateur. Les mots sont inventés pour les créatures. Et par conséquent, quand on parle de Ma'ana'a Yeshulamelech, quel profit a le roi? Ça, pour un roi, tu peux demander qu'est-ce qu'il est. Quel profit a Hachem? Bon, il n'a aucun profit. Mais néanmoins, dans ce cas, on voit bien que la création apparaît comme si Hachem avait besoin des convives pour avoir. Il faut qu'Hachem tire un profit en quelque sorte de ce qu'il a fait, sinon c'est inutile. Mais tout ça, c'est des raisonnements humains. Mais nous, si on veut essayer de comprendre, et puis ultimement, tout ça, c'est tout ce qu'on va décrire sur Hachem, c'est pourquoi est-ce qu'on décrit ça? On n'est pas en train du tout de faire de la théologie. On est en train de décrire le comportement qu'Hachem veut des hommes. Alors, ce qui est écrit ici, ça veut dire que ce que tu as, pour en avoir une véritable anaa, il faut en faire profiter les autres. Si tu ne fais pas profiter les convives, il y a une halakha, par exemple, dans Ilchot Yom Tov, le Rambam, il dit clairement que une seuda d'Yom Tov dans laquelle il n'y a pas d'invité, ce n'est pas une seuda d'Yom Tov. C'est quasiment pas kasher. Alors nous, on est derrière nos barricades, etc. Donc le pauvre, il ne peut pas se présenter, il ne peut pas venir chez nous à l'improviste, hein, parce qu'il y a suffisamment de barrières avec des digicodes et des machins, des trucs. Il ne peut même pas frapper à votre porte, à notre porte. Mais c'est ça qui est dit. Tout ce qui est dit sur Hachem, c'est toujours comme... si vous voulez, ça n'a pas de sens. Encore une fois, on ne fait pas de théologie. Donc, on n'est pas en train de dire ce qui se passe pour Hachem. Alors, on le dit pour Hachem, mais c'est uniquement pour que nous sachions que ça, c'est bien. Quand on dit qu'Hachem fait certaines choses, ça veut dire Hachem veut que nous fassions ça. Et le roi, il n'a pas de... Hachem n'aura... Pourquoi il a créé les hommes? Ultimement, même les malachés à charrette sont obligés de reconnaître. Ben finalement, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que... Ce qui te fait plaisir. Tu fais comme tu veux. C'est-à-dire la volonté d'Hachem, le plaisir d'Hachem, la volonté d'Hachem. Chez Hachem, la volonté, le plaisir, etc. Tout ça, c'est des mots faits pour les créatures. Donc, nous, on donne un peu de relief aux choses. Donc, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. On n'est pas du tout en train de dire quelque chose qui ne concerne que Hachem, bien sûr. Mais pour bien comprendre l'importance de la chose, alors on te dit, Hachem, il fait comme ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce qu'on a une mitzvah d'imiter Hachem. Alors, l'enseignement ici, c'est que ne t'imagine pas qu'il y ait une véritable jouissance dans le fait de la possession des choses. Quand tu possèdes quelque chose, la vraie jouissance, c'est pour de pouvoir en faire profiter les autres. Si tu n'en fais pas profiter les autres, c'est un leurre. Tu ne vas pas en profiter. Ça ne va te donner aucun plaisir. C'est un plaisir qui va tout de suite te dégoûter au bout d'un certain temps. Zain. Rabbi Yoshua de Sifnin, Shem Rab Shmuel Amar. Benafshotan, Shel Tzadikim, Nimlach. Hashem a pris conseil auprès des âmes des Tzadikim. Pas auprès des Malachim. Lui considère c'est les âmes des tzadikim. Adaudirtiv Où est-ce qu'on sait? Ils sont allés chercher, le Midrash est allé chercher un pasouk dans Divrei Hayamim, c'est-à-dire dans les chroniques, dans les derniers livres de Tanakh. Emma Ayotzrim V'yoshvei Netaim Ugdera Imamelech Imlachto Yashuvushama, pardon. Donc, ils sont allés chercher ce verset de Divrei Hayamim, chronique. Ceux qui, les Yotzrim, le Yotzer, c'est un potier. Donc, c'est celui qui travaille la glaise, celui qui travaille quelque part. Qui sont des habitants. Yoshvé Netaim, des gens qui habitent dans les plantations. Et Ugdera, et aussi dans les endroits clos, dans les endroits fermés. Imameler, avec le roi, Bimlarto, dans son travail. C'est là-bas qu'ils sont. Yashvushama. Alors, ce verset-là, il faut l'expliquer un peu. Alors, on l'explique de la manière suivante. Emma Ayotzrim Al-Shem, le mot Yotzrim, qui veut dire les potiers, les fabricants, il faut l'entendre par rapport au mot Yotzer qu'on trouve dans Maaseh Bereshit. Yotzer, c'est celui qui forme. Ça va dans, vous connaissez, donc c'est la Tzilut, la Bria, Yetzira et Asiya. C'est le monde de la formation, de la donation de forme. Justement, le potier, c'est celui qui prend de l'argile et qui lui donne une forme. C'est ça le potier. Celui qui forme la terre. Il prend de la terre et il la forme. Et donc ça, il faut entendre ce mot Yotzrim ici par comparaison ou aller s'appuyer sur le verbe qui est utilisé dans la création de l'homme, va yitzer Hashem Elohim et Adam afar min Adama. Hashem Elohim a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Ensuite, on a dit que ces gens-là, ils étaient Yoshvé Netaim, des gens qui résident dans les plantations. Alors, ici, le mot netaim, plantation au pluriel, neta, il faut l'entendre par rapport à ce qui est écrit dans Maaseh Bereshit, Vaita Hashem Elohim gan be'eden mikedem. Hashem Elohim a planté un jardin à Eden, à l'Orient. Gdera, le mot Gdera, il faut l'entendre par rapport à ce qui est écrit. Alors cette fois-ci, ce n'est plus un passouk de Bereshit, mais un passouk du Navi Yirmiya. Où le Navi dit « Asher santi chol gvul layam » « J'ai mis le sable comme limite à la mer ». Donc ici, c'est la notion de Geder. Geder et Gvul, c'est un peu la même chose. Geder, c'est une barrière. Et Gvul, c'est aussi une limite. Barrière comme limite. Alors, Im HaMelech Bimlarto Yashvu, on dit qu'ils étaient auprès du roi dans son travail. dans le travail du roi, donc, qui c'est le Meler? Ima Meler, c'est Meler Hamalchi Hamlachim, Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Yashvu, ils étaient auprès de lui, donc, Nefashot shel tzadikim, shebaen nimlach HaKadosh Baruch Hu. Ce sont les âmes des tzadikim auprès desquelles HaKadosh Baruch Hu a pris conseil et il a créé le monde. Avec ses conseils, il a créé le monde. Voilà le Zayin, le numéro 7. Alors, de quoi parle-t-on ici? Une nouvelle notion qui est introduite ici, c'est les âmes des tzadikim. C'est quoi les âmes des tzadikim? Ici, c'est quelque chose qui semble-t-il, a priori, se dit Rabbi Yoshua de Tzirkhnen, il vient ajouter ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que on voit que les nefashot des tzadikim, c'est peut-être un niveau plus élevé que les malachim. Donc, c'est une façon de dire, Akadosh Baruch Hu, il a pris conseil auprès des malachim, comme on l'a vu jusqu'à présent, mais auprès d'un niveau plus élevé qui sont les nefashot des tzadikim. Les nefashot des tzadikim, pardon. Nafshotan, les nefashot des tzadikim. Alors, d'où est-ce qu'on sait qu'il a pris conseil auprès d'eux? La source, c'est ce fameux verset de Divrei Hayamim, des chroniques, donc. À partir du moment où on va prendre ce verset et on va l'interpréter à partir des... donner du sens aux mots qui sont dits là, qui ont l'air de décrire... On parle des potiers, on parle de gens qui sont dans les plantations et dans les espaces clos. Et on dit qu'ils étaient avec... ils sont avec le roi lorsque le roi fait son travail. Alors, les Rachamim ont interprété ce verset pour décrire justement les nefashot des tzadikim. Les nefashot des tzadikim, c'est justement ça. C'est d'abord les yotzrim. Alors, comment est-ce qu'il faut entendre ça? Yotzrim, on dit, il faut aller regarder ces yotzrim. Normalement, les yotzrim, ce sont des gens qui créent, qui forment. Et on va prendre le Vayitzer, on va prendre non pas une source pour des gens qui forment, mais qui sont formés. N'est-ce pas? Les Yotzrim ne sont pas. Les Chachamim, ici dans le Midrash, ils renversent complètement la situation. Au lieu de parler de Yotzrim, de gens qui forment, ils prennent la racine Yotzer et ils la prennent dans le Réchit, dans la création de l'homme. Mais là-bas, ce n'est pas l'homme qui crée. C'est l'homme qui est créé, c'est l'homme qui est formé. Donc ici, on est en train de dire, Tsiotrim, qui sont eux-mêmes, ils ont été créés. C'est la création de l'homme. Et là aussi, Netaïm, on a l'impression que c'est les gens qui plantent. Mais le verset qu'on amène, c'est le Gan Eden qui a été planté. Et qu'on prend tous les verbes qui, dans les chroniques, sont actifs, en fait, et on les retourne complètement pour justement parler de l'homme. Ils étaient auprès du roi, des rois, auprès d'Hachem, Bimelachto, dans son travail. Melachto, c'est la création du monde. Et c'est de là que Rabbi Yossi, Rabbi Yoshua ben de Sirchanin dit, voilà, c'est marqué qu'ils étaient auprès de Melech Malchei Hamelachim au moment de la création du monde. Il y a encore une petite remarque à faire. À la fin du texte, il est dit ils étaient Ima Melech, Melech Malchei Hamelachim, Akadosh Baruch Hu, Yashvu Nefashot Shel Tzadikim, Shebaen Nimlach Akadosh Baruch Hu, Ubara Et Haolam. Donc, on parle des Nefashot, des Tzadikim, avant la création du monde. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu prend conseil des Nefashot, des Tzadikim, avant de créer le monde. Donc, c'est ce que Rabbi Yoshua dit, « Beshem Shmuel, Benafshotan Shel Tzadikim Nimlach. » Mais nous, on était partis sur la création de l'homme, les psukim qu'on est en train de travailler maintenant, c'est la création de l'homme. Cet homme qui apparaît comme la dernière chose créée, qui apparaît dans un monde qui est déjà complètement créé, dont Elohim dit qu'il est tov. Et Rav Yoshua, il vient et il dit ici, attends un instant là, ça veut dire que les Nefashot et Tzadikim auraient précédé la création du monde, puisqu'Hachem a pris conseil de Nefashot des Tzadikim pour créer le monde. Pour avoir des tzadikim, il faut avoir des hommes, il faut que ces gens agissent conformément à la volonté d'Hachem pour être des tzadikim. C'est quoi les nefashot des tzadikim? Les tzadikim, comme tout le monde, ils ont un nefesh quand ils sont créés. Ce nefesh, il est parfait au départ. Ce nefesh, il va inciter l'homme à obéir à Hachem. Mais ce nefesh, en fait, il va entrer dans le corps des hommes et donc il va être soumis au Yetzer Hara, enfin, il va être confronté au Yetzer Hara aussi. Et c'est le nefashot des tzadikim, ça veut dire, c'est le nefashot de qui ont réussi à être plus fortes que les Yetzerara, finalement. Ultimement, ce sont elles qui ont gagné. On parle des gens qui sont devenus des tzadikim. Donc, on parle ici de gens pour lesquels la création du monde s'est avérée quelque chose de positif. Bon, c'est les gens qui ont fait la volonté d'Hachem. Donc, a priori, ceux-là, ils sont pour la création, non? Nimlar, ça veut dire Hachem a pris conseil. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme conseil? Évidemment que l'homme soit créé. On ne va pas s'occuper du problème du temps. De quoi on parle ici, c'est avant la création, après, etc. Mais le nefashot des tzadikim, c'est la réussite. Donc, si on dit qu'Hachem a consulté le nefashot des tzadikim, bah, ce serait la justification de ce qu'Hachem a fait. Hachem a décidé de créer l'homme. Les malachim, ils se sont posés des questions, mais Hachem, il a dit, moi, je l'ai créé. Pourquoi? Parce que s'ils consultent les nefashot des tzadikim, ben, ces nefashot, elles disent, ben, ça vaut la peine qu'ils soient créés. Mais le problème, c'était quand même, le problème qui était soulevé, c'est, ok, il y a les nefashot des tzadikim, mais qu'est-ce qui se passe avec les rechaim? Hachem ne prend pas conseil. S'il prend conseil que de ceux dont on sait à l'avance qu'ils vont être positifs, ils sont pour, ça ne s'appelle plus prendre conseil. On retrouve ici quelque chose de connu, semble-t-il. Ici, on retrouve cette idée que, au fond, la seule chose qui est importante, c'est le tov. C'est le bien. Le rat, ok, c'est des ratés. Mais ça ne porte pas à conséquence, ultimement. Vous vous souvenez, on a souvent dit que le mal a un impact limité. Finalement, le mal, je répète ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, que le mal, il existe, si on peut parler comme ça, comme absence de bien. C'est-à-dire que pendant qu'on a fait le mal, on n'a pas fait le bien. C'est ça qui est grave. On a gaspillé du temps, si on peut parler comme ça, sans faire le bien. On aurait pu remplir ce temps avec le bien. Avraham Avinu, on dit qu'Avraham Avinu, il était Baba Yamim. Une des lectures de Baba Yamim, qui a priori on peut lire, ça veut dire qu'il est devenu vieux, mais Baba Yamim, il est venu avec les jours. C'est-à-dire il est venu et il peut présenter un bilan positif de chacun des jours de sa vie. Baba Yamim, il vient avec quoi? Voilà, il vient dans l'Amaba, il arrive et il présente un bilan. Le bilan de sa vie, c'est tous les jours de sa vie, il a fait quelque chose, il en a fait quelque chose. Il a rempli sa vie, en quelque sorte. Le nefesh des tzadikim, pour être tzadik, il faut en tout cas que le bilan soit positif. Ce qui s'est passé peut avoir eu des hauts et des bas. La tchouva, ça existe. D'accord? Mais ultimement, voilà, on a fait tchouva, donc ultimement, on présente un bilan positif. Alors, c'est quoi le Nimlach ici? C'est quoi cette consultation, prendre conseil? Nimlach, c'est prendre conseil. Qu'est-ce qu'il attendait comme conseil? Hachem, il n'a pas besoin de conseil. Ici, Nimlach, ça veut dire que si on regarde, voilà, si on regarde, ça vaut la peine. C'est pas chose de tzadikim. Et c'est ce qu'on est en train de dire ici, c'est que la création elle-même, donc le, ce qu'on appelle l'arto chez la Kadosh Baruch Hu, le travail d'Hachem, la création elle-même, elle s'est faite alors que les Nefashot des Tzadikim étaient auprès d'Hachem. C'est-à-dire, on a parlé des Netaïm. Ceux sont dans les plantations, mais on a retourné et on a dit c'est ceux, ça fait référence à Nata Gan Be'eden. L'être humain, quand il a été créé et placé directement dans le Gan Eden. Il n'a pas été mis, l'être humain, dans un espèce de no man's land. On va voir où il va tomber. Il est posé d'abord dans le Gan Eden. Vous vous souvenez, on a parlé dans les Shiurim sur Shavuot. Que, justement, à cause de ces deux Yud du Vayitzer, beaucoup a créé l'homme avec deux Yetzer, Yetzer Tov, Yetzer Ra. Mais ça veut dire qu'il a été créé, l'homme a été créé avant de dire Yetzer Tov, Yetzer Ra. Il a été créé pour appartenir aux deux mondes, au Olam Hazé et au Olam Haba. Donc l'homme, il a une appartenance naturelle au Olam Haba, et la preuve, c'est que on le met d'emblée dans le Gan Eden. C'est un peu comme le Olam Haba, c'est le Olam Haba. Et après, quand il faut, alors on est obligé de le sortir du Olam Haba. Par conséquent, ce qu'on nous dit ici, c'est que cet homme qui a une netiya, un penchant, qui est planté quasiment dans l'amaba, initialement. S'il est devenu tzaddik, c'est qu'effectivement, il a réussi. Malgré la faute d'Adam Arishon et les fautes, etc. Lui, en tout cas, il a récupéré son chélek de l'amaba. Son appartenance naturelle au Olam Haba. L'appartenance à être Ben Olam Haba, ce n'est pas une chose, si vous voulez, qui viendrait comme quelque chose d'extérieur, d'étranger. L'appartenance à Olam Haba, l'homme appartient au Olam Haba, sauf si il s'en fait exclure, sauf s'il en est chassé. Parce qu'il se conduit de telle sorte qu'on est obligé de le chasser. Et donc, quand les Nefashot des Tzadikim, qui elles sont Nefashot qui sont à leur place, elles sont dans l'Olam Haba, elles étaient déjà au moment de la création, elles étaient auprès d'Hachem, auprès de la Kadosh Baruch Hu, auprès, vous voyez, dans ce Midrash-là, la Kadosh Baruch Hu est présentée non seulement comme la Kadosh Baruch Hu, mais comme Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Donc c'est énorme, quoi. C'est-à-dire Melech. Ça veut dire Melech. Comment est-ce qu'il peut être Melech? il est ménère parce que les nefashot des tzadikim sont là. Donc, ils le reconnaissent. Les nefashot des tzadikim, ce sont les nefashot de ceux qui ont reconnu Hachem comme ménère. Qui le reconnaissent. Donc, si vous voulez, c'est comme si, au moment de la création, c'est comme une espèce de feedback. Au moment de la création, on va aller voir ce que ça va donner. On s'aperçoit qu'il y a des nefashot des tzadikim. Du coup, on les ramène au moment de la création et on crée en tenant compte de ces nefashot des tzadikim. Donc, Akadosh Baruch Hu, si vous voulez, utilise pour créer le monde le fait que ça marche bien. Lui qui est en dehors du monde, donc quelque part, si on veut donner un schéma, il n'a pas besoin de... Bon, il sait ce que ça va donner. Et donc, quelque part, c'est comme s'il utilisait le résultat. On sait que ça va marcher au moment de la création. Pourquoi ? Parce qu'il voit que les nefashot de Tzadikim sont là. Elles sont là. Et donc, comme elles sont là, elles, naturellement, elles sont auprès d'Hachem, elles sont dans le Gan Eden, etc. C'est ça la création. C'est ça le Nimlach. Quand je vois le Nimlach, on traduit Nimlach par prendre conseil, se concerter ou des choses comme ça. Mais vous voyez bien qu'il y a dans Nimlach la racine Melech. C'est comme si Nimlach était quelque part, si Hachem était, il est déjà Melech, il est rendu Melech par les Nefashot des Tzadikim. Au moment de la création. Puisqu'en fait, la création, elle a le, enfin, telle qu'on nous, on la comprend, ça a le sens que parce que c'est ce qui va permettre à Hachem d'être reconnu comme Melech. Pour la création de l'homme, plutôt. Mais là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que on était parti de la création de l'homme et maintenant on s'aperçoit que les nefashot sont déjà là au moment de la création du monde. C'est-à-dire qu'en fait, le monde qui va être l'outil avec lequel l'homme va devoir travailler pour servir Hachem, la fabrication de l'outil qui est nécessaire pour l'homme, Elle a aussi été fabriquée parce qu'on sait que cet outil va servir à quelque chose. Ce qu'on avait vu en haut quand Hachem a dit au Malachim, mais tout ce que j'ai créé, à quoi ça sert alors ? C'est bien sûr que je ne l'ai créé que parce que ça va servir. Alors, comment on sait que ça va servir ? À cause des nefashot des tzadikim. Donc finalement, Nassé Adam, ça a été fait avec l'accord des Nefashot des Tzadikim. Nassé Adam, qu'est-ce que ça veut dire Nimlach? Nimlach ici, c'est Hachem a regardé ce que ça allait donner. A tenu compte de ce que ça allait donner. Ça va donner des Nefashot des Tzadikim. Semble-t-il, c'est suffisant. Qu'il y ait des nefashot des tzadikim, c'est suffisant. Ah, il est rechaïm, je vous dis, il est rechaïm, c'est pas très important. Ils nous cassent les pieds, ils empêchent le monde d'avancer, etc. Mais c'est pas fondamental. Par contre, de leur point de vue, parce qu'il y a un manque de bien, peut-être que c'est en cela qu'ils sont dérangeants, les Rechaïm. sont dérangeants parce que, si vous voulez, le total du bien dans le monde n'est pas aussi important qu'il pourrait l'être, qu'il aurait pu l'être si les Rechaïm n'avaient pas perdu leur temps à ne pas faire le bien, ne pas faire le tov. Voilà. Bon, on va s'arrêter pour aujourd'hui parce que on en a déjà assez dit.